bon lundi ensoleillé à tous. Bienvenue dans l'heure CV à 10h pile. Merci de vous être branchés. Déjà, on a commencé à jaser au 418-971-1021. Très heureuse d'être avec vous en ce lundi. Grosse semaine d'actualité déjà, ça part en grand. Chose certaine, on va prendre le temps de s'installer confortablement. À l'heure CV, deux bons invités encore aujourd'hui qui ont accepté de venir nous parler. Ce show-là, il est collaboratif, vous le savez. Donc, autant sur Twitch qu'au 418-971-1021, c'est le fun de vous savoir à l'écoute pour vos questions, pour votre participation. Sur Twitch, ben salutations à la gang qui est, comme d'habitude, bien en poste après l'émission du matin avec les valeureux collègues Jean-François Fortin, Max Larouche et Mathias. Mathias qui va venir aussi à l'émission faire un bulletin de nouvelles dans quelques minutes parce que, ben oui, il a décidé de prêter main forte dans leur CV avec l'actualité. On commence à avancer tranquillement, pas vite, vers la fin de l'été. Mais en fin de semaine, on était hautement gâtés samedi. Quelle belle journée! Dimanche, beaucoup d'averses en début de journée, mais après, on a eu un superbe après-midi hier. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous en avez profité? Vous pouvez écrire tout ça au 418-971-1021. Beaucoup d'impact de la grève d'Air Canada. Je voyais ça en fin de semaine, je le suivais avec intérêt. Ouf, des montants d'argent astronomiques qui sont dépensés pour essayer de revenir à la maison ou ramener la petite famille dans un endroit, finalement, de vacances. Mais c'est loin d'être le service à la clientèle que certains clients s'attendaient. On parlait de rebooker des vols, mais on constate que rapidement, c'est pas aussi simple que ça. Et il y en a qui paient jusqu'à 13, 15, 20 000 $ pour une famille de 5 parce que le prix des billets là, chez d'autres entreprises a énormément augmenté aussi. L'offre et la demande, mais on se pose la question, est-ce que ça devrait être ça? Dans un contexte, oui, mercantile, économique, avec une grève comme celle-ci où les agents de bord refusent de monter dans les avions pour offrir le service habituel. Puis il y a plein de revendications que vous avez appréciées. Il y a eu un sondage dans les derniers jours qui martelait à quel point la population était de votre côté. Mais ça commence à changer un peu parce que quand tu viens fouiller dans les poches des contribuables, des gens qui en arrachent déjà pour leurs vacances, pour le travail ou autre, le ton change. Hein? Et c'est ce qui s'est passé au courant des dernières heures. Bien qu'on soit en accord avec le fait que les agents de bord aient des réclamations, qui sont somme toute assez normales. Là, on parle de gens qui veulent se faire payer quand ils travaillent. Là. On ne parle pas de réclamations différentes qu'un agent de bord qui est au poste, là, quand il vous scanne le billet pour faire entrer dans l'avion, il n'est pas payé. Quand il place vos bagages non plus, toutes les heures avant, les heures après, finalement, il est payé juste quand l'avion est en vol. Ça fait beaucoup de jaser, ça fait beaucoup réagir. On ne souhaite pas ça nécessairement, c'est des vieilles conventions. Mais là, la grève des agents de bord d'Air Canada a été déclarée illégale et ça vient de tomber. On pensait avoir un retour à la normale. Finalement, on avait rebroussé chemin en l'espace de 48 heures. C'est les nouvelles de la fin de semaine. Mais là, ce qui vient d'être tranché, en fait, au Conseil canadien des relations industrielles, ça s'appelle le CCRI, le CRI, là, si je peux vous le dire comme ça. Bien, on dit que la grève des 10 000 agents de bord d'Air Canada est illégale. Donc, on a ordonné au syndicat canadien de la fonction publique qui représente ces agents-là de bord de mettre fin immédiatement au débrayage puis d'exiger le retour au travail des membres. Décision qui a été rendue hier, jugée aujourd'hui et annoncée notamment par voie de communiqué cet avant-midi. Donc, le syndicat, ses dirigeants doivent cesser immédiatement toute activité déclarant ou autorisant une grève légale et diriger les membres à reprendre leurs fonctions. Il y en a aussi qui ne reprenaient pas leurs fonctions faute de vol qu'ils pensaient réussir à attraper pour revenir à la maison. On parle de travailleurs d'Air Canada. Mais là, vraiment, on leur demande de retourner au travail. On les somme, enfin, de le faire sans délai. C'est une décision qui survient quand vous saviez que le conflit a paralysé toutes les activités d'Air Canada, d'Air Canada Rouge, depuis le 16 août, quelques jours, là, deux jours en fait, mais bien avant parce qu'on annulait tranquillement, pas vite, des vols. Donc, il y a environ 500 000 passagers là, qui ont vu leur vol annulé. Il va falloir revenir avec un genre de rapidité dans tout ce qui est gestion de reprise de vol, mais on affirme regretter les désagréments subis par la clientèle du côté d'Air Canada. On assure travailler un retour en service le plus rapidement possible. Les voyageurs vont pouvoir consulter les sites de compagnie. Mais on va en jaser un peu plus tard avec Andrew Damour, qui est cofondateur de Fly Trippers et qui, lui, en a eu par-dessus la tête des réclamations et des demandes d'aide à ce niveau-là. Très, très, très au courant de la situation. Est-ce que ça vous impactait? Est-ce que vous avez eu des relents de ça, vous aussi? C'est une bonne question, en fait, à poser aux auditeurs parce qu'on est en pleine séance de vacances, là, en ce moment. Il y en a plein, même si les vacances à construction sont terminées, qui avaient besoin, justement, de transporteurs. Puis juste au niveau du travail, là, ça a créé une paralysie assez importante. Alors, oui, effectivement, ça a bien dormi dans les dernières heures, la fenêtre ouverte, 12 degrés la nuit dernière, c'était particulier. Pierre-Louis qui nous écrit, content que l'heure CV soit retour. Question pour la foodie Antoine, est-ce que tu as essayé le Harvey? Prochain, on voulait essayer sur notre liste. Oui, délicieux Harvey, bien implanté à Québec, ils ont beaucoup de prix depuis en restauration. Mais c'est vrai, ça, c'est un bon sujet. Ça pousse énormément les restaurants ici dans la capitale nationale depuis quelques mois déjà. Harvey est déjà bien implanté, ils ont fait un événement en fin de semaine aussi, avec le Sabayon qui a eu une étoile Michelin du côté de Montréal. Sabayon, c'est Patrice Demers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Canal Vie, de mémoire. Il y avait une émission, en tout cas, Patrice Demers, les pâtisseries de Patrice, une affaire de même, là. Puis il a ouvert sa pâtisserie à Montréal. Il roulait pour 1500 pâtisseries par jour, facile. C'était de la job à peu près, beaucoup d'employés. Dans les dernières années, il a dit non. Ça ne sera pas la qualité de vie que je vais avoir avec ma femme, Marie-Josée Beaudoin. Ils sont ensemble en affaires. Puis ils ont fermé la pâtisserie. Puis ils ont ouvert un tout petit resto de quartier de moins de 20 places, directement à quelques pas d'où ils habitent. Puis ils font rouler ça. Je vous le dis, Sabayon, là, à Montréal, c'est une place à aller. Finalement, Guide Michelin est arrivé. Vous savez, il y a eu une étoile. Là, on parle de nourriture accessible, d'ambiance extraordinairement chaleureuse parce que c'est Patrice et sa femme qui vous font à manger, qui vous font le service. Sa femme est sommelière. Puis, il y avait des fois des événements comme ça à pas manquer. Des fois, vous suivez des restaurants que vous aimez, puis ils vont faire des tables champêtres, entre autres, l'été. Ça, là, garochez-vous là-dessus. Souvent, des super belles collaborations dans des genres de serres ou encore des tables extérieures. Vous pouvez vraiment profiter d'un bon moment avec votre famille, avec des amis ou avec des inconnus. Des fois, ils font des longues tables et tu ne sais pas trop avec qui tu vas être, mais c'est une expérience extraordinaire. Salutations aussi, Roquette du côté de l'île d'Orléans. Petit casse-croûte qui fait fureur en ce moment, qui a ouvert en fait dans les deux dernières années, mais là, ça commence vraiment à rouler et à se faire connaître. Des petits bijoux comme ça, en avez-vous? 418-971-1021. On va passer l'heure ensemble, entre autres, comme je vous disais, avec le cofondateur de Fly Trippers pour comprendre un peu ce qui va se passer dans les prochaines minutes et ce qui s'est passé dans les dernières heures avec la grève d'Air Canada. Et Sylvain Dancause, fidèle allié, enseignant, commentateur en éducation qui va venir faire son tour à l'heure CV. Comment on se retrouve dans cette heure-là? Il va venir nous jaser, oui, de la rentrée, effectivement. C'est quoi nos défis? Comment ça va se passer pour vos jeunes? Comment ça va se passer également pour vous, enseignants ou encore parents? Mais chose certaine, Bernard Drainville fait beaucoup jaser. Hein. On parle de 10% d'enseignants qui sont non qualifiés, qui ont la moitié d'un bac et qui vont enseigner à vos enfants. Ça vous inquiète-tu ou vous vous dites en pénurie de main-d'œuvre? Un peu comme on jasait, Mathias et moi, vendredi dernier. Bien, tant qu'il y a des adultes qui sont capables d'avoir une certaine pédagogie, mais surtout qui ont une connaissance pour être dans les classes rendu là, est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est pas drôle de dire ça, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Sinon, on a des chiffres comparatifs aussi sur le nombre d'enseignants manquants. On peut revenir sur des principales causes avec Sylvain Dancause sur ce qui se passe au ministère de l'Éducation depuis juin 2023. On sait qu'il y a beaucoup de personnels aidants, des personnels qui travaillent avec les enseignants pour vos enfants, pour le retard aussi qui a été alimenté par la pandémie au courant des dernières années. On a une problématique en enseignement, comme on en a une en santé, comme on en a une avec tout ce qui est dossier technologique. Il y a du stock pas à peu près pour la rentrée. On va essayer de souffler là-dedans, mais on va aller parler à nos experts. On va s'asseoir tranquillement, puis on part ça avec les trois accords hawaïennes à Boulevard 102.1 dans leur CV. Quels sont vos droits? À quel moment vous pouvez revendiquer qu'on ne vous respecte pas? À quel moment vous pouvez aller rechercher de l'argent dans vos poches si jamais on décide d'avoir une interruption de service dans quoi que ce soit? Est-ce que l'aviation, le transport aviation, est-ce que ça devrait être un droit? Est-ce que ça devrait être un service essentiel? Un peu comme tout ce qui est transport collectif. Hein? On a eu maintes et maintes fois ce genre de discours-là et débat-là avec les grèves au RTC, entre autres. Hein? Est-ce que ça devrait être essentiel d'offrir ce service-là? Bien sûr, des compagnies privées qui vont lever la main, qui vont dire « wow, 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 c'est pas le cas ». des syndicats également. Et là, on vient d'apprendre que la grève des agents de bord d'Air Canada qui vous paralyse, tous et chacun, à une personne d'intervalle ou pas, a été déclarée illégale. Ça a été fait ce matin. Donc, on vient d'apprendre le tout. Le Conseil canadien des relations industrielles a tranché, donc 10 000 agents de bord d'Air Canada qui doivent retourner au travail immédiatement. Vous avez été pénalisé pour plusieurs. Vous avez vu des histoires qui ont fait la manchette tout le long du week-end. Pourquoi pas aller parler avec Andrew Damour, qui est cofondateur de Fly Trippers. Bonjour, M. Damour.
Bonjour.
Ça a été rocambolesque au niveau de l'aviation, de rebooking, de vol, de stress aussi pour des usagers, des vacanciers, des travailleurs au courant des derniers jours. Comment ça se manifestait chez Fly Trippers?
C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont affectés. Air Canada perd 700 vols par jour environ. Donc, c'est 100 000 passagers par jour. Donc, même si la grève n'a pas duré énormément longtemps, comparativement à ce que ça aurait pu être, ben c'est 100 000 par jour. Fait que ça monte excessivement vite. Fait que les gens, ben c'est un peu normal. Là. C'est très rare que ce genre de situation arrive. Fait qu'ils ne savent pas leurs droits. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Puis, ben sans vouloir excuser les mauvaises communications ou le manque de communication, il y a quand même 100 000 personnes qui ont été affectées. Fait que c'est un peu difficile pour Air Canada de rejoindre tout le monde, évidemment, et de rebooker tout le monde instantanément. Fait que c'est sûr que ça cause beaucoup de confusion.
Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est vol à bon prix. On réussit à acheter pour un peu partout. Vous êtes connu pour ça. Est-ce que vous avez vu une montée d'achalandage sur votre site ou encore est-ce que vous avez eu à gérer de la clientèle mécontente que leur vol soit annulé?
Oui, bien, dans le fond, on a créé un guide qui expliquait vraiment tous les détails de la situation, puis tous les droits des voyageurs et des passagers selon où leur vol opérait, parce que c'est complexe, c'est comme ça. Malheureusement, si ton vol est domestique, un vol intérieur au Canada, tu as moins de droits que si c'est un vol international. Puis si ton vol part de l'Europe spécifiquement, tu as des droits de plus là aussi. Fait qu'on a un peu fait un guide pour ça, puis on a fait des infographies pour essayer de simplifier ça et expliquer ça de manière le plus succincte possible. Fait qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus pour consulter ces articles-là, puis aussi nous poser des questions, parce qu'on essayait de répondre, en tout cas, aux questions qui n'étaient pas répondues dans notre guide pour essayer de d'aligner les gens vers les bonnes approches, les bonnes étapes à suivre s'ils sont affectés.
Au niveau des droits des bons usagers, des clients, en fait, vous dites qu'ils sont différents pour des vols internationaux, pour des vols au Canada, pour des vols dans la province. Est-ce que vous pouvez nous faire un genre de vulgarisation de tout ça?
Oui, en gros, pour tous les vols, si le transporteur annule ton vol, puis en passant, c'est pas juste pour une grève, là, mais pour n'importe quelle situation, si un transporteur annule ton vol, tu as toujours droit à deux choix. Soit être replacé complètement gratuitement sur un autre transporteur ou être remboursé complètement. Donc, là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'évidemment, on est en pleine période de pointe de l'été, donc il n'y a pas 100 000 sièges par jour de disponibles sur les autres transporteurs. Fait que c'est normal que ce soit un peu plus complexe, mais beaucoup de gens vont se faire avoir en disant « Bon, ben d'abord, j'ai pas le choix de prendre un remboursement, mais c'est absolument pas le cas. Tu as toujours le droit à un replacement sur un autre transporteur. Ils sont obligés légalement de faire ça, mais ça peut prendre quelques jours, évidemment, parce qu'il n'y en a juste pas des sièges pour tout le monde. Mais c'est la clé. Là. Si on veut poursuivre son voyage, puis on veut pas que ça nous coûte plus cher, il faut vraiment pas accepter de remboursement, puis se faire replacer sur un prochain vol.
Pour les vols ici, est-ce que c'était plus complexe? Parce que, bon, nous, entre autres, juste à l'aéroport de Québec, la moitié des vols font affaire avec Air Canada et Air Canada Rouge. Est-ce qu'on devrait avoir une pluralité, en fait? Est-ce que ça devrait être un objectif principal pour un aéroport d'être diversifié dans la compagnie qui gère les vols au quotidien?
Ça, c'est sûr. Je veux dire, moi, toutes les années que j'habitais à Québec, je partais presque toujours de Montréal parce que le fait qu'il n'y a pas de concurrence fait que les prix sont tellement plus élevés qu'à Montréal. Donc, là, bon, évidemment, des règles générales, là, je parle. Donc, c'est souvent le cas. Fait que non seulement ça aurait évidemment des avantages d'avoir plus de transporteurs et plus de compétition en termes de prix, mais aussi pour ces situations-là aussi. Puis, c'est sûr que c'est le cas dans beaucoup d'aéroports canadiens. En fait, tous les plus petits aéroports canadiens, ben, quand Air Canada est en grève, c'est ça. C'est la moitié des vols, sinon plus, qui sont affectés. Fait que c'est pour ça que c'est très difficile d'être placé sur un autre vol quand il n'y en a tout simplement pas d'autres.
Sentez-vous qu'il pourrait y avoir un genre de recours collectif ou quelque chose pour des gens qui ont dépensé 13, 15 000, 20 000 $ pour revenir à la maison suite à l'annulation de vol chez Air Canada?
Je crois qu'un recours collectif soit nécessaire dans la mesure que la loi dit déjà clairement que tu as le droit de te faire rembourser par le transporteur s'ils n'ont pas offert d'alternative. Par contre, c'est sûr que c'est le voyageur, le passager qui doit faire les démarches pour aller chercher ça. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, comment que le gouvernement libéral, en fait, qui a installé ces protections-là pour les passagers il y a quelques années, mais que tous les experts décrivent comme beaucoup, beaucoup trop molle. En fait, je pense qu'il y a comme 78 000 cas en attente pour être revus par la commission qui impose des pénalités et qui impose justement les remboursements. Donc, c'est extrêmement lent. Donc, c'est ça. C'est vraiment je ne sais pas si un recours collectif accélérerait les choses, mais c'est sûr qu'il y aurait assez de gens pour embarquer, ça, c'est sûr, avec la quantité de vols qui ont été annulés.
La reprise de vol, parce que là, on clame et on somme les employés de retourner au travail là, dès maintenant, là, immédiatement du côté d'Air Canada. Donc, grève illégale, puis on dit tout le monde retourne dans les avions, on opère les vols. Il va certainement y avoir des appels qui vont se faire auprès de clients pour dire que le vol, finalement, existe encore, qu'on reprend le travail. Est-ce que pour un client, par exemple, qui s'est trouvé un autre vol ailleurs pour gérer cette crise-là, puis qui avait à se déplacer, ou encore qui est plus disponible pour partir, il y aura recours aussi?
Bien, c'était pour ça que c'est vraiment important d'attendre que le vol soit annulé avant de faire quoi que ce soit. Puis c'est malheureux, puis je comprends que ça frustre bien des gens parce que les vols étaient annulés quelques heures avant le vol. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre le concept de pourquoi faire ça. C'est justement pour que si les vols puissent reprendre, ben, qu'ils n'aient pas été annulés pour rien. Parce que c'est très difficile de remettre la pâte à dents dans le dentifrice, là. C'est une fois qu'elle est sortie, c'est bien difficile. Fait que c'est pour ça qu'ils annulaient les vols à la dernière minute pour que justement, si ça reprend, ben, go, on repart, puis il n'y a pas trop de complexité. Fait que pour ceux qui auraient annulé eux-mêmes leur vol, honnêtement, il n'y a plus vraiment de recours. C'était ta décision d'annuler le vol, ta décision d'encourir d'autres coûts. Si ton vol n'avait pas encore été annulé, ben malheureusement, c'est ça, il n'y a pas de recours. Puis si quelqu'un veut plus voyager, ben ça, en théorie, Air Canada devrait quand même être assez flexible pour offrir le remboursement, d'après moi, parce que ça va faire leur affaire d'avoir ces places-là pour les donner à quelqu'un qui va vouloir se rendre, qui est, mettons, 2 jours en retard sur son itinéraire normal. Mais c'est ça, c'est assez complexe de juste réussir à les rejoindre parce qu'il y a 100 000 personnes qui veulent les rejoindre en même temps aussi, là, fait que...
Andrew Damo, vous êtes cofondateur de Fly Trippers. On vous parle aujourd'hui pour tout ce qui est grève de Air Canada. On a sommé les employés de retourner travailler en passant. Là, on le répète, mais ça a été déclaré illégal comme grève pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous parliez du fait qu'il y avait des recours là, qui sont toujours en latence en ce moment de gens qui voudraient se faire rembourser des vols ou encore qui ont fait des réclamations à des compagnies aériennes. Est-ce qu'il y en a toujours qui sont en attente depuis la pandémie?
Oh oui, je pense que c'est au moins 3 ans, si je ne me trompe pas, là, de backlog, pardonnez-moi l'expression, que la Commission des transports du Canada a, parce que ben, clairement, ils sont pas pressés de servir la clientèle, c'est-à-dire les contribuables qui payent pour toute cette infrastructure-là. Parce que c'est absolument ridicule, là. Pensez-y, là, pendant 3 ans à attendre pour un dossier, c'est vraiment, vraiment gênant pour un pays du G7. Puis, il n'y a absolument rien qui a été fait par le gouvernement de Trudeau et le nouveau gouvernement de Carney non plus pour régler ça. Donc, si on ajoute maintenant tous les cas qui vont s'ajouter avec la situation de ce week-end, ça, je veux dire, il va falloir quelque chose se faire, sinon ça va prendre quoi, 7 ans avant que tout le monde ait une réponse. C'est assez, assez ridicule, mettons.
Ça risque d'être complexe pour la suite des choses. Là, il y a des gens qui vont peut-être se faire appeler, peut-être des vols aussi, qui vont reprendre là, pour ceux qui étaient prévus maintenant, demain. Ça va ressembler à quoi? Est-ce que la compétition était forte au courant des dernières heures? Parce que ça a énormément eu d'effet, là, boule de neige, avec l'offre et la demande. Les prix avaient fort augmenté. Est-ce que vous voyez ça comme l'offre et la demande, vous, ou vous voyez ça comme du profit généré par des entreprises qui profitaient de cette grève-là?
C'est de l'offre et la demande. C'est normal que ça soit plus cher parce que s'ils les laissent au prix normal, il y a des gens qui vont en acheter même s'ils n'ont pas besoin. Puis là, les avions vont partir tout seuls parce que, mettons que le vol sera encore 400 $. Tu dis, bon, moi, d'un coup, il va être annulé, il m'a le payé 400, puis au pire, je le perds. Mais c'est pour ça que ça semble être une bonne idée. C'est très contre-intuitif, là. Tu dis, ben oui, ils veulent faire du profit. Non, non, c'est juste qu'à un moment donné, si tu le fais pas, les avions vont partir avec des sièges vides de quelqu'un qui va l'avoir réservé pour absolument rien juste parce que c'était pas cher. Fait que quand l'offre et la demande entre en jeu comme ça, c'est les gens qui sont les plus pressés, qui ont vraiment des raisons urgentes de se rendre, ben, c'est qu'eux puissent avoir accès à un siège au lieu que tout soit plein parce que tout n'était pas cher. Ben, au moins, ils sont capables de s'en sortir. Puis, quand on est un voyageur futé, justement, qui connaît ses droits puis qui a fait toutes les étapes dans l'ordre, ben, on sait qu'on peut se faire rembourser. Fait que peu importe le prix, c'est plate de devoir d'avancer ce montant-là, mais Air Canada est obligé de te rembourser si on ne peut plus te replacer. Fait que c'est juste. C'est ça, c'est de faire un prêt sans intérêt à Air Canada, dans le fond.
Pour quelqu'un qui travaille sur les vols là, de façon régulière, en terminant, est-ce que ce branle-bas de combat-là va occasionner un embourbement pendant longtemps? Est-ce qu'on va en voir encore des suites de cette grève-là dans quelques semaines, dans quelques mois, le temps de replacer tout le monde?
Non, pas si longtemps que ça, mais c'est sûr que ça va prendre Air Canada dit un 7 à 10 jours là, avant que les choses reviennent à normal parce que c'est des transporteurs aériens comme ça qui ont une flotte de genre 300 avions, Air Canada, c'est pas fait pour être arrêté. Là, on l'a vu pendant la pandémie, puis là, on le revoit. Tu sais, c'est extrêmement complexe de repartir tout ça, puis de juste de l'effet domino, tout ça, parce que c'est pas juste replacer les gens qui ont pas pu partir ce week-end, c'est que tous les vols de la prochaine semaine étaient déjà pleins. Là, il y avait déjà des gens qui voyageaient. Fait que c'est un 7 à 10 jours solide, mais après ça, ben ça devrait être quand même revenu à la normale au moins. Donc, ça aurait pu être beaucoup pire, dans le sens que si la grève durerait une semaine, là, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Mais dans les circonstances, disons que le gouvernement est intervenu vite, ça soulage beaucoup de voyageurs dans la mesure où l'impact va être relativement limité pour 10 jours encore, puis après ça, on va être correct.
Si vous avez des questions pour Andrew Damos et son équipe, il est cofondateur de Flight Trippers. Allez faire un tour sur leur site. Ils ont un guide justement pour vous aider à bien comprendre vos droits puis ce que vous pouvez faire pour la suite des choses. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Ça suscite encore beaucoup de réactions, cette grève-là. On le voit partout au Canada, on le voit même partout dans le monde. Là, actuellement, le syndicat qui représente les 10 000 agents de bord qui ont arrêté leur service, là, qui faisaient la grève, en fait. Alors, tous les membres pourraient s'exposer à de fortes amendes s'ils ne retournent pas au travail dès aujourd'hui. La loi là, a prévu des amendes de 1 000 par jour, des amendes maximales, mais c'est quand même 1 000 par jour pour les employés et 100 000 par jour pour le syndicat. Là, c'est ce qu'on apprenait du professeur de gestion de droit à l'Université d'Ottawa dans un texte de Radio-Canada. Les informations coulent tranquillement, pas vite, mais c'est beaucoup d'argent. 1 000 pour un agent qui ne se présente pas au travail et qui doit travailler, qui continue de faire la grève, et 100 000 par jour d'infraction pour le syndicat. On y va très fort. On veut que tout reprenne du côté d'Air Canada et que les gens puissent revenir à la maison ou continuer, en fait, de voler pour le travail, la plaisance ou autre. 418-971-1021, si vous avez des questions ou encore un commentaire. On revient dans un instant avec Mathias. Mathias qui va nous livrer l'actualité des dernières heures. Là, Bob Bissonnette, j'accroche mes patins. Dans leur CV.
Avec Pascal CV.
J'avais une discussion avec mon collègue Mathias qui se joint à l'instant à l'émission. Salut Mathias.
Salut, salut.
On parlait ensemble, puis on n'en fera pas d'autres commentaires, mais de cette grève-là d'Air Canada, on dirait que c'est sur toutes les lèvres, mais l'exercice de droit en arrière de ça, puis la rémunération pour le travail est très, très, très intéressant. Plus tard à l'émission, on va avoir justement un avocat en droit du travail dans Marceau le midi. On va aller en jaser un peu plus, mais tellement d'accord avec ce commentaire-là, Mathias, c'est triste de voir que les gens ne peuvent plus se battre pour faire valoir leurs droits, le droit d'être rémunéré pour leur travail, ahurissant. Quand est-ce qu'on va pouvoir parler à un employeur pour être payé à sa juste valeur? Dans le cas des agents de bord, c'est fou. Il y a beaucoup de gens, puis il y a eu un sondage la semaine passée, qui sont en accord avec la demande des agents de bord, avec le fait de vouloir être payé plus que juste quand ils sont en plein vol. Sauf que la paralysie des services, en fait, c'est la gestion d'Air Canada qui est extrêmement réprimandée. Ce n'est pas les agents de bord en grève, c'est comment Air Canada gère le conflit actuellement et gère surtout le service à clientèle. C'est là où le bas blesse. Puis c'est ce qu'on voit par texto. C'est presque un débat, là. C'est presque une chicane là, par
ouais,
texto.
Ben, j'ai comme l'impression que les syndicats font tellement la grève, puis il y a certains syndicats qui ont tellement des revendications ridicules que dès le moment qu'un syndicat rentre en grève, le premier réflexe, c'est comme genre « Ah, pas encore une grève! »
Mais dans ce cas-ci, c'était pas ça. Les gens étaient très, très, très en accord avec la grève des agents de bord. Un peu moins quand c'est venu difficile, mais plus par la gestion d'Air Canada cette fois-ci. Hey, qu'est-ce qui a attiré notre attention dans l'actualité, Mathias, aujourd'hui?
Yes, ben, je commence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui va se rendre à Washington aujourd'hui. Il va être accompagné de dirigeants européens, puis on parle de hauts dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron, président français, ou encore le chancelier allemand Friedrich Merz. En gros, ça va être une rencontre importante. Là. Je vous le rappelle, Donald Trump qui a rencontré Vladimir Poutine vendredi dernier en Alaska, il s'en est pas tiré grand-chose. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce qui s'était dit durant cette rencontre de deux heures-là. Par contre, aujourd'hui, Donald Trump a mis une pression énorme sur le président ukrainien Zelensky en disant qu'il pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait. Donc, Trump qui met une pression. On se souvient de la dernière rencontre entre les deux. Ça s'était pas bien passé. Ça n'avait pas fait du bruit pour les bonnes raisons. Eh bien, aujourd'hui, le président américain qui rencontrera le président ukrainien à 13 heures seul à seul. Par la suite, les dirigeants européens qui se joindront à la partie.
Ah ouais, puis c'est assez criant ce qui se passe avec Donald Trump parce qu'il a exposé qu'il avait une vision complètement opposée de celle de Volodymyr Zelensky et la Russie a continué ses frappes meurtrières. Qu'est-ce qui va advenir de cette discussion-là? J'espère que ce ne sera pas encore une pièce de théâtre ridicule, gênante comme celle qu'on a vue la dernière fois où Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés à la Maison-Blanche.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, demande au Conseil des ministres d'approuver un supplément de près de 200 millions de dollars pour deux projets informatiques. Est-ce que ça vous sonne une cloche de déjà-vu des projets informatiques du côté de la CAQ qui augmente sans cesse de coûts? Cette fois-ci, c'est pour deux projets spécifiques. Tout d'abord, le développement du dossier santé numérique. Ce projet-là, qui devait initialement coûter 265 millions, on a réinvesti. On est atteint à 307 millions. Là, avec les nouvelles demandes de Christian Dubé, on passerait à 402 millions. Donc, un projet qui devait coûter initialement 265, on coûterait 202. Du côté du deuxième projet, donc le système informatique des finances et de l'approvisionnement, coût initial de 96 millions. Selon les nouvelles demandes de Christian Dubé, ça atteindrait 280 millions. On a triplé le prix de ce projet-là en quelques années.
Quand je faisais ma revue de presse, le premier questionnement qui m'est venu en tête, c'est est-ce qu'on avait les mêmes démarches qu'avec SAQ Click? Puis ça fait en sorte qu'on est pris dans cet engrenage-là. Puis ce qui va changer, c'est la suite des choses. Mais j'espère, je croise mes doigts, je ne veux pas être dans une utopie, mais je me dis peut-être qu'on avait encore cette même manière de faire-là. Puis les relents font état de cette manière de faire. Ça veut dire engager peut-être des gens qui ne sont pas assez compétents pour mener ces projets technologiques-là. Donc, pas capable d'estimer les coûts. Justement, on n'a pas fait des backups. On n'est pas capable de gérer en conséquence. Il y a trop de fonctionnaires. C'est pas bien régulé. Si c'est ça, j'espère que la fin de ces projets technologiques-là menés de main de clowns, ce sera terminé puis qu'on va apprendre de... Par contre, si c'est un nouveau projet né par la suite, après... Tout ce qu'on commençait à voir avec la commission Gallant, oui, maintenant, mais bien avant, on levait là, des drapeaux, là, on levait des flags. Là, on disait ça se passe mal, ça coûte trop cher, on n'a pas la bonne main d'œuvre. On a l'impression que ça se passe pas comme un projet qui est dans normalement les engrenages. C'est pas normal d'avoir fermé le site web complet de la SAAQ pendant un bout pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau logiciel qui entre là-dedans. Ça se passerait jamais comme ça dans une entreprise privée. Si c'est juste un copier-coller, parce qu'on a commencé en même temps que la SAAQ Click ou approximativement, je me dis, OK, c'est le dernier déboire technologique au Québec.
Bien, on l'espère, en
J'espère
tout cas.
J'espère que c'est ça.
Mais puis selon les sources de Radio-Canada, on peut sentir quand même une sorte de division dans le Conseil des ministres. On dit que c'est pas fait là, que ce 200 millions-là soit accordé. Le Conseil des ministres qui vont prendre une décision le 20 août. La commission d'enquête sur le fiasco SAAQ Click reprend ses audiences aujourd'hui, ce matin, à Montréal. Donc, ça va être une grosse semaine, vraiment. On se concentre sur le rôle que le ministère des Transports a joué dans le dossier. Aujourd'hui, on va entendre deux anciens ministres des Transports sous les libéraux, en fait, aujourd'hui et demain. Tout d'abord, Laurent Lessard et par la suite, André Fortin. Ensuite, en fin de semaine, ce sera François Bonnardel et Geneviève Guilbeault qui seront devant la commission. Ça va brasser cette semaine.
Des gros noms. Tu sais, il y en a qui réclamaient ce que Jean Charest passe en entrevue à la commission Charbonneau. Ça n'a jamais été le cas. Je ne veux pas faire de parallèles douteux, mais assurément qu'on amène ces gens-là à témoigner, à se faire questionner, c'est le minimum dans le dossier. Bonnardel, Mme Guilbeault, ce sont des gens qui avaient les deux mains dans la pâte et il faut absolument les entendre. c'est au moins ça.
Les citoyens de la circonscription de Battle River Crowfoot, ce sera leur élection partielle en Alberta aujourd'hui. Pourquoi on parle de cette élection partielle-là? Eh bien, c'est avec elle que le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, pourrait faire son entrée à la Chambre des communes. En temps normal, ça devrait se faire très facilement. L'ancien député conservateur qui avait gagné à 83% le comté de Damien Couric. L'élection avait attiré son l'attention également parce qu'on avait eu un nombre record d'inscriptions de candidats, 214 candidats. Donc, est-ce que ça va être finalement l'entrée de Pierre Poilievre aujourd'hui? On va voir ça. Éric Duhaime, qui est sorti du silence aujourd'hui sur Facebook à la suite de sa défaite dans l'élection partielle d'Arthabaska. C'est une défaite qui avait quand même fait mal avec un gros pourcentage. On s'attendait pas à 11% différence avec le PQ. Eh bien, il a finalement fait une sortie à la suite de son silence. Il a dit qu'il ne retenait que du positif de cette campagne, que le Parti conservateur avait tout de même progressé de plus de 10%, mais que c'était pas le seul positif, là, qui avait fait de belles rencontres, qui allait continuer d'être le défenseur de la rue. Il a terminé en disant que ce n'était que partie remise pour le PCQ pour devenir porte-parole à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, Mathias. Je te souhaite une excellente journée.
Merci. Bonne
journée
à toi aussi.
On te retrouve demain dans l'émission du matin.
Yes.
Il est bien content. Va faire ta sieste, va profiter du soleil, Mathias. Tu le mérites. À Boulevard 101, on prend une courte pause. De l'autre côté, on parle à Sylvain Dancause. Fidèle acolyte ici, à l'émission, à la station, enseignant, commentateur en éducation. Vous l'avez entendu souvent aussi dans l'émission du matin. On va aller jaser rentrée, on va aller jaser Drainville, on va aller jaser de votre personnel, de vos enfants, de vous-même en tant que parent. Restez là, on revient dans leur CV.
Ça, c'est le son qu'on entend au Stade Canac un soir de baseball. Les mardis au Capital de Québec, c'est les soirées cadeaux surprises, présentées par Ellipse. Arrive tôt pour mettre la main sur la surprise du soir. Puis pour une soirée vraiment parfaite, reste à l'écoute de Boulevard 102.1 parce que tu pourrais gagner tes billets dans la zone Kepler pour le match de 19h05 le mardi 26 août contre les Miners de Sussex County. En plus, l'escouade Boulevard sera sur place. Les Capitales de Québec et Boulevard 102.1, fiers de vous faire vivre des soirées d'été parfaites.
Le meilleur moment pour acheter un véhicule électrique, c'est quand? Chez Chevrolet, on vous confirme que c'est maintenant. En ce moment, vous profitez des meilleurs taux de location et de financement jamais offerts sur l'Equinox EV et le Blazer EV 2025. Il y a aussi une prime Costco allant jusqu'à 1 200 $ offerte aux membres admissibles. En plus, Chevrolet a fini numéro 1 des ventes de véhicules électriques au Québec en 2024 et continue de l'être aujourd'hui. Raison de plus de passer chez vos concessionnaires Chevrolet dès maintenant. Certaines restrictions s'appliquent.
Sur mes chantiers, j'ai assuré ma machinerie puis mes outils chez Beneva. Puis ils ont fait le tour de mes besoins. Tellement du bon monde! Ça m'a donné le goût d'être encore plus une bonne personne. Fait qu'à cette heure, sur mes chantiers, il n'y a pas une cantine, il y a 5 cantines. VG, vegan, keto, flexi quelque chose, puis un rack hot dog. La gang est bien contente.
Beneva. Bon monde, bon prix. Votre entreprise est bien assurée. Obtenez une soumission.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
7 allers-retours à la piscine pour profiter de l'été.
12 week-ends à faire la tournée des meilleurs restos.
40 destinations encore plus belles en vrai qu'en photo. Wow!
Mesurez la fiabilité de votre BZ4X en nombre de souvenirs, pas seulement de kilomètres. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 11 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
De retour pour une deuxième année, la plus grosse convention internationale de tatouage au Québec, Québec Tattoo Show. Venez vous faire tatouer avec plus de 450 artistes provenant des quatre coins du monde. Découvrez les dernières tendances en matière de tatouage. Concours, spectacles d'humour, cracheurs de feu, DJ et encore plus. Nouveauté cette année, espace food truck avec animation. Du 22 au 24 août à Expo Cité. Billets au québectattooshow.com. Présenté par Paradox Tatouage.
Et si votre carrière progressait grâce à la formation continue du Cégep Garneau? Au Cégep Garneau, nous offrons des programmes flexibles et adaptés à votre réalité. Que vous souhaitiez obtenir une attestation d'études collégiales, perfectionner vos compétences, former votre personnel ou faire reconnaître vos acquis et vos compétences, notre équipe vous accompagne à chaque étape. Spécialisée en transport et logistique, en approvisionnement, en administration et bien plus encore, nous vous aidons à concrétiser vos ambitions. Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel. Visitez progressezavecunz.ca dès maintenant.
À l'affiche chez vos concessionnaires Nissan, la liquidation totale. Tout l'arsenal est déployé pour vous offrir les meilleures offres de l'année. Mettant en vedette le héros du moment. Le nouveau Nissan Kicks 2025 à traction intégrale livrable. VUS ou compact le plus vendu chez Nissan et recommandé par l'équipe RPM. Profitez d'un financement à 0% jusqu'à 24 mois et obtenez en plus un boni liquidation de 500 $. Passez voir le Kicks dès maintenant. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Boulevard, Centre-Belle.
T'aimes l'actualité? T'aimes le rock? T'as jamais téléchargé l'application Boulevard sur ton téléphone? T'es qui, toi? Gratuit sur Google Play et App Store.
It's
leur CV avec Pascal CV.
On est déjà rendu à notre dernier segment d'émission. C'est sous le soleil qu'on le fait. Honnêtement, si vous êtes en vacances, profitez-en. C'est pas très chaud encore. On est à 15 degrés dans la capitale nationale, mais ça va monter jusqu'à 21 aujourd'hui. Chose certaine, je vois aucun nuage. À l'horizon, dans les prévisions, il n'y a rien d'ennuagé de prévu. Ce soir et cette nuit, ça sera dégagé également. Ensuite, un peu d'ennuagement parce que demain, mardi, ben, c'est ce qu'on a. Hein. Un ciel plus gris avec 19 degrés. Les nuits sont fraîches ces temps-ci. Jusqu'à 10, c'est notre maximum. On ouvre les fenêtres, on s'emmitoufle et on se colle. Et on le fait d'ici les prochaines semaines parce que vous savez ce qui vous attend. Puis là, je ne veux pas être porteuse de mauvaises nouvelles. On est juste à la même place, tout le monde ensemble. Fin août, c'est toujours le cas. La rentrée scolaire s'en vient à grands pas. On commence déjà à parler d'éducation. Bernard Drinville est sorti 2-3 fois dans l'actualité, même si on est en plein conseil des ministres, en caucus, puis ça brasse du côté de la politique provinciale, surtout dans le parti de François Legault. Et il y en a un qui est bien critique en matière d'éducation. C'est notre partenaire, notre collègue ici à Boulevard 102.1, enseignant également au secondaire et commentateur en éducation. Salut Sylvain Dancause.
Salut Pascal CV.
Je t'amène à sortir de tes vacances bien méritées après ces 2 années rocambolesques là en éducation. T'as-tu une petite bière dans la main, même s'il est 10h42, Sylvain?
Non, il est un peu de bonheur, là. Ben, je me le permets des fois à la pêche, là, mais dans le quotidien, je me le permets pas quand même. Je suis plus discipliné que ça. Là.
Ouais, c'est bien mais, ça.
Là, mes vacances achèvent, là, je recommence c'est à peu près partout pareil, là. C'est environ ça, mais moi je recommence vendredi. Donc nous, on rentre vendredi. Les élèves vont rentrer vers la fin de la semaine prochaine.
Ah, pour vrai, cette semaine, là, vendredi, vous autres, vous êtes au travail, là, les enseignants, au secondaire du moins.
Ouais, c'est bizarre là. Ben en fait, nous c'est tout le centre de service scolaire là, donc tous les employés là dans les écoles là. Ben en fait, les directions d'école sont déjà de retour au travail. Ça fait quelques semaines. Là, ils ont été occupés avec la fin de l'année que tout le monde a connue. Mais tu vois là, le personnel enseignant, nous on rentre vers la fin de la semaine. Ça change d'un centre de service scolaire à l'autre, mais grosso modo c'est pas mal ça là.
Il y a quelques semaines, on entendait le premier président directeur général de l'Institut national d'excellence en éducation, Lucien Maltais, dire qu'on avait un système d'éducation qui était solide. On a questionné tout ça. On le questionne nous-mêmes en tant que commentateur, parents, enseignants, jeunes également. Bernard Drinville est sorti 2 fois. La première fois pour dire, mon Dieu, besoin criant de tout ce qui est personnel qui aide les enseignants au quotidien. Là, on parle de tout ce qui est...
Les professionnels, oui. Les employés de soutien.
Les employés de soutien, mais c'est parce qu'à chaque fois que je m'en vais là-dedans, là, il y a bien des gens qui ne comprennent pas, mais c'est ceux qui vont accompagner les élèves au quotidien dans la classe ou encore dans les retards scolaires. Quand vous continuez votre classe, c'est ceux aussi qui vont surveiller les pauses. C'est ceux qui, finalement, font partie tout autant de la vie des élèves dans les établissements scolaires. C'est ça, Sylvain?
Exact. Les employés de soutien, ça regroupe en fait plusieurs corps d'emploi, mais tu pourrais parler des éducatrices en service de garde aux primaires, des techniciens d'éducation spécialisée qui vont souvent agir avec des jeunes qui ont des problèmes souvent de comportement, les secrétaires d'école évidemment, les surveillants d'élèves qui, ça paraît pas trop, mais les surveillants d'élèves sont extrêmement importants, surtout dans une école secondaire, c'est eux qui vivent avec les élèves, souvent au rez-de-chaussée, dans les salles des casiers, vont travailler en collaboration avec le policier école pour faire de la prévention pression, des fois, pour aller voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a de l'intimidation. Fait que souvent, ils sont au courant ou au fait de ce qui se passe là, sur le plancher, directement dans les pauses.
Ils ont le premier pouls là, de cet écosystème-là dans l'école, parce que quand on est en classe, normalement, on essaie, puis on tente d'écouter le plus possible, puis de se faire à la matière. Mais dans les corridors, c'est un peu l'écosystème qui ressort, là.
Oui, c'est des emplois importants, puis c'est des gens indispensables. Donc, tous ces employés-là font partie d'un grand corps d'emploi qu'on appelle les employés de soutien. T'as les directions d'école, évidemment, t'as les enseignants, puis l'autre corps d'emploi qui existe sont un peu moins nombreux, mais ils sont quand même aussi importants, les professionnels. À ce moment-là, tu vas parler plutôt de psychoéducateurs, conseillers en orientation, psychologues, orthopédagogues, orthophonistes, donc des gens qui souvent font partie d'un autre professionnel, puis qui sont là bon pour des problèmes un peu plus pointus. Là, par rapport à certains élèves.
Maintenant qu'on les a démystifiés, on les a ventilés, ces gens-là, Bell-Andrinville clamait grande pénurie de main-d'œuvre, pour sortir une semaine plus tard et dire, par contre, on a presque booké toutes les places d'enseignants pour la prochaine année dans tout notre réseau scolaire. Le ministère de l'Éducation se vantait de ça. 90% et plus des plages et des postes en enseignement qui étaient comblés. Honnêtement, ça se sent comment à une semaine de la rentrée scolaire sur le plancher?
Bien, c'est toujours difficile à dire. Les chiffres sont pas faciles à décortiquer. Tu vois, je regardais les chiffres là, de cette année pour les enseignants particulièrement. On parlait là, de près de 93 000 postes à combler. Il en manque à peu près, là, au moment où on se parle, 4 000 à aller chercher. L'an passé, il y avait à peu près 1 500 postes de plus d'affichés à la même date. Donc, c'est comme s'il y avait 1 500 profs de moins dans le réseau qu'on a de besoin cette année. C'est un peu bizarre. Monsieur Drainville semblait pas s'inquiéter de ça. J'ai plutôt aimé, par contre, le commentaire d'André Bernier. Puis j'ai hâte de le voir, lui, André Bernier. Là, vous le connaissez pas, mais c'est le nouveau président de la Fédération québécoise du personnel de direction. C'est un gars qui était sur le terrain il y a pas longtemps. C'est un gars qui est assez... qui a pas la langue dans sa poche. Et j'ai hâte de voir, je pense que la FQDE, qui est l'ensemble des directions d'école qu'il représente, je pense qu'ils vont être un peu plus vocaux cette année. Je pense qu'on va en entendre un peu plus parler. Tu vois, lui disait, ouais, je suis pas certain, il y a 1 500 postes. Je pense que c'est beaucoup des directions d'école qui, au mois de juin, compte tenu des compressions qu'on avait à faire, on a aboli des postes de profs, mais qui n'étaient pas en classe, parce que tu sais qu'il y a des profs qui vont aider à faire autres tâches dans l'école. Ça peut être du pédagogique, ça peut être du comportemental, ça peut être du team teaching, donc on va travailler à deux à certains moments avec certains groupes. Fait qu'on a coupé là-dedans beaucoup. Fait qu'il y a peut-être des enseignants qui se sont fait dire, ben, tu vas retourner à temps plein en classe. Il y a des enseignants aussi qui étaient libérés d'une petite partie de tâche pour aider des enseignants non légalement qualifiés, donc aider des gens en insertion professionnelle. Ces gens-là vont peut-être avoir moins d'appui cette année pour la rentrée. Donc, il y a comme 1 500 jobs qui sont pas là, qui étaient là l'année passée. Ça, c'est un peu un chiffre bizarre qui a attiré mon attention. Puis M. Bernier, qui est le président de la FQDE, aussi questionnait cette disparition-là de 1 500 postes.
C'est quoi les deux principales causes là, de ce manque-là ou d'enseignants ou de personnel de soutien?
Bien, tu vois, pour les enseignants particulièrement, là, il y a un document qui a été publié en 2023, en juin 2023, fait que ça fait quand même pas tellement longtemps. Ça s'appelait « Prévision des besoins de main-d'œuvre en éducation ». C'est un document qui a été produit par le ministère d'Éducation. Puis déjà en juin 2023, on avait ciblé deux causes importantes pour nous dire « Hey, il y aura pénurie ». Ben, en fait, il y a pénurie, il nous manque du monde. On estimait à ce moment-là le manque à peu près à 3 600 enseignants en moyenne par année à combler. Tu vois, on est à 4 000. Fait que l'estimation qu'on a faite en 2023 n'était pas très, très loin. La première cause, puis ça, c'est une cause qu'on n'entend pas parler très, très souvent, c'est l'augmentation des retraites qui s'en vient. Fait que tu vois, là, en 2023, on estimait qu'il y avait à peu près le quart du staff, donc 25%, un petit peu moins, là, 24% du staff qui avait 50 ans et plus. Fait que ça veut dire que dans les 10 prochaines années, attendez-vous à avoir beaucoup de départs à la retraite, donc il y aura des enseignants à remplacer, et il n'y a pas tant de relève que ça, donc ça va être un manque à gagner important. La deuxième cause la plus importante qui était ciblée par le ministère, c'était la hausse des effectifs scolaires. Autrement dit, il y a plus d'élèves. Donc, si tu combines les deux effets, départ massif à la retraite, plus d'élèves dans nos écoles, ben c'est sûr que c'est une hécatombe qui était déjà annoncée, puis on la voit venir. Ce qui fait que ce qu'on vit depuis quelques années, qu'on vit cette année, ben, on va le vivre encore pendant plusieurs années. Donc, le jour de la marmotte risque de s'étirer encore quelques temps.
En 30 secondes, Sylvain, pour juste terminer ce point-là de la pénurie de main-d'œuvre, les causes de cette pénurie-là, au quotidien, ça se traduit comment dans la vie des parents puis la vie des étudiants? C'est qu'ils vont changer de prof selon des contrats de 2-3 mois? C'est qu'il n'y aura pas un enseignant qualifié devant eux?
Bien, il y a plusieurs hypothèses possibles. Le pire cas de figure, c'est que ton enfant n'a pas d'enseignant. Donc, autrement dit, une classe qu'on va appeler une classe orpheline, à la rentrée, t'es au primaire, t'as pas de titulaire. À la rentrée, t'as reçu ton horaire, puis là, tu vois que dans la case français ou dans la case anglais, il n'y a pas de nom encore dans ton horaire. Donc, autrement dit, on ne sait pas encore qui va enseigner dans ces groupes-là. Donc, ça, c'est le cas de figure le plus grave. Ensuite de ça, ben, on va évidemment essayer de combler ces trous-là. Il y a peut-être des trous qui ont déjà été comblés par du personnel. Là, non légalement qualifié, ça ne veut pas dire incompétent en passant. Là, donc, soyons clairs, il y a des gens qui sont excellents là-dedans, mais ça reste que c'est des gens qui ont souvent un peu moins d'expérience, donc qui ont besoin d'appui, font une insertion professionnelle. Il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont à l'université présentement aux études en enseignement qui vont venir prêter main forte. Même chose, c'est des gens qui veulent, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont le goût d'être là, mais c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement. Donc, ça se peut que l'enseignant de ton enfant soit un peu moins expérimenté. Donc, ça, c'est des cas qui vont arriver. Donc, on verra, mais ça, ça risque de se produire. Puis là, j'ai dépassé mon 30 secondes, Pascal.
Mais non, mais peut-être... Donc, est-ce qu'il va y avoir un roulement ou ça va être quand même la même personne qui va être dans la classe une fois qu'on va être...
Il y aura du roulement, c'est sûr. Ça arrive dans une année scolaire, c'est immanquable. Il y a des congés de maladie, il y a des congés de maternité. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont commencé comme non légalement qualifiés, qui veulent essayer, puis qui se rendent compte après un mois, deux mois, trois mois que ça le fera pas, donc quitte le navire en cours de route. Donc ça arrive, c'est des incontournables, puis là, il va falloir composer avec ça. Et moi, je l'ai vu là assez fréquemment dans les dernières années, là, des gens qui sont en place, qui prennent plus que 100% de tâches pour essayer là, de que les élèves soient à flot pendant un certain nombre de semaines pendant qu'on cherche quelqu'un. Fait que ça va arriver, c'est sûr, dans plusieurs écoles du Québec. Puis des fois, ce qui est un peu tannant pour les parents, c'est qu'ils sont pas au courant toujours de ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut que les écoles soient transparentes là-dessus pour avoir une collaboration école-famille. La pire chose, c'est de faire croire aux parents que tout va bien, que le prof est qualifié, qu'on a des enseignants. Ça, c'est je pense que c'est pas la chose à faire. Puis je pense que c'est de travailler en collaboration avec les parents, les rassurer, oui, mais aussi les informer de ce qui se passe à l'école.
Mais de faire comprendre aussi que c'est qui le personnel de soutien, parce que pour certains, des fois, ils pensent que c'est le concierge, la conciergerie, puis c'est pas qu'ils trouvent que c'est pas obligatoire et un beau poste à l'interne, mais ils comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur leurs enfants puis l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est toujours des commentaires qu'on a. On en reçoit pendant qu'on se parle, Sylvain Dancausse, t'es enseignant. Rapidement, peut-être on pourrait aller chercher un genre de 3 commentaires ensemble en ondes. Stéphane qui nous écrit... J'ai pas entendu si Sylvain Dancausse a commenté le fait de voir l'enseignement sans brevet pour enseigner comme étant positif actuellement vu que c'est criant.
Bien, c'est sûr que ça, c'est un débat. T'sais, on va tout rentrer dans la valorisation de la profession. Bon, on a créé quelque chose, puis ça me fait toujours un peu rire. Là, un guichet, j'obtiens mon brevet. Quand tu mets dans la même phrase guichet et j'obtiens mon brevet, ça fait pas tellement sérieux.
Ça fait j'aurais payé mon permis de conduire, là.
Mais ouais, mais tu vois, on en a besoin de gens qui veulent s'embarquer dans le bateau. Fait que c'est sûr qu'on peut pas d'un côté cracher sur ces gens-là, puis de l'autre côté, tu sais, dire ben on a besoin de monde. Là. Fait que mais ce qu'il faut faire, puis c'est ça, je pense qu'il le nerf de la guerre, c'est de les accompagner puis de les former. C'est pas de dire hey, ok, ben là tu viens de rentrer dans l'école, aujourd'hui je te mets un macaron puis tu t'appelles enseignant puis t'es devenu par magie un enseignant. Ça se passera pas comme ça. Il va y avoir des mois difficiles, des années difficiles, des années d'accompagnement, puis de parfaire sa pédagogie, puis d'apprendre à gérer des enfants ou des adolescents. Fait que ça se fait pas en un tour de main, puis il y a des gens qui veulent le faire, donc c'est les gens là qui sont là pour la bonne raison, mais il faut mettre en branle des systèmes d'accompagnement, d'insertion professionnelle.
Puis pour les garder aussi peut-être, puis faire en sorte que c'est pas les jeunes qui entrent sur le domaine du travail qui désertent en premier avant même les futurs retraités parce qu'ils sont découragés. Il nous reste 2 minutes.
Toi, Pascal, je vais te couper parce que je trouve que tu as un excellent point. Tu sais, des enseignants, on en forme beaucoup, puis on en forme depuis des années, et puis ça, je le répète, puis je suis pas tout seul à le répéter, là, mais tu sais, on en forme beaucoup. Le problème, c'est qu'on en perd plus qu'on en forme. Fait que faut aussi s'attaquer à la rétention du personnel. Donc, c'est bien beau de dire, ouais, on manque de monde, mais je veux dire, si on en produit moins qu'on en perd, ben, ça marchera jamais, là. L'équation arrivera pas, on va toujours être dans le négatif. Donc, ça, on n'entend pas beaucoup parler. La seule solution du gouvernement, c'est en former plus, en former plus, en former plus. Ouais, OK, mais s'il en sort plus, il en sort plus, il en sort plus, on n'en sort pas.
Puis ça coûte de l'argent.
À un moment donné, s'attaquer aux causes des départs puis de la rétention.
Absolument. En réponse oui ou non, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables d'aider leurs enfants dans leur charge scolaire. Est-ce qu'il y a une formation pédagogique de quelques heures qui existe à ce niveau-là? Oui ou non, Sylvain Dancause?
Ben, je dirais que non, à ma connaissance.
Parfait. On va travailler là-dessus dans le commentaire en ondes à l'émission et avec toi pour l'automne, Sylvain. Ben, puis en terminant...
Après des belles chroniques.
Ben oui, je pense que oui. On va se reparler, c'est sûr. Puis il nous reste 50 secondes. On va finir l'émission ensemble, Sylvain. Est-ce que tu veux qu'on te vouvoie, toi, à l'école? Ou... Parce que là, c'est un article qui fait bien réagir ce matin. Là. Et moi, je te tutoie. T'es-tu insulté?
Je suis épuisé, Pascal, du crossaillage de mouches en bon français, là. Tu sais, il y a pas mal d'autres problèmes à régler que le vouvoiement. Ça, c'est une pièce politique qu'on est allé chercher pour changer un peu là, la lunette d'endroit. Tu sais, ça fait parler d'autres choses. Fait que pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autres choses. Il y en a qui pensent là, que c'est de la magie. Moi, je pense que c'est des décisions écoles. Ça s'appelle de la micro-gestion. Le gouvernement n'a pas d'affaire à aller dire aux écoles, tu sais, on vous voit ou on tutoie. C'est pas du tout au gouvernement à décider ça. C'est aux équipes écoles en place, c'est aux professionnels, aux personnels de soutien, aux enseignants, aux directions qui sont dans l'école, d'aller établir les règles claires dans l'école, puis de vivre avec les parents et les élèves ces règles claires-là. École par école, milieu par milieu, région par région, selon les situations. Fait que ça, le gouvernement, tant qu'à moi, là, il fait fausse route, il fait erreur. Puis, honnêtement, je pense que je vais probablement être hors la loi sur celle-là.
je vais prendre goût à laisser le mot de la fin aux interlocuteurs, aux invités. Sylvain Dancause, merci beaucoup d'avoir été là dans leur CV. Bonne dernière semaine de vacances, puis bon retour à l'école vendredi.
Merci Pascal, ça m'a fait plaisir.
À bientôt, bye bye. C'était tout bye. Pour leur CV. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dès demain 10h. Tout de suite, c'est Marceau le midi qui commence. Yannick s'amène en studio. Puis on passe l'heure du lunch avec vous. Ce serait quoi un meilleur plan que ça? Ben, j'en connais pas.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Vous conduisez un véhicule 2020, 21, 22 ou 23, peu importe la marque.
Avec le défi du même prix, on vous charge votre véhicule pour la même mensualité.
Passez nous voir.
Et on va vous faire une offre.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Chaque jour, vous utilisez des objets alimentés par le lithium.
Mais saviez-vous que leurs batteries peuvent s'enflammer?
Protégez-vous et votre famille avec Aero 911, le seul extincteur conçu pour les piles au lithium.
En avez-vous un?
Disponible en magasin et en ligne sur hero911.com.
Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir?
Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm.
Oh, c'est un excellent choix!
Hé, je suis curieuse, mettez quoi là-dedans?
Je laisse mon mixologue vous l'expliquer.
Ben, ce mois-ci, les ingrédients vedettes sont un combo village et aventure d'une valeur de 85 à 51 chez Ziptopia et une location d'embarcation d'une durée de 3 heures d'une valeur de 47 à 23 chez Canot Légaré. Est-ce que ça va de goût?
Mais hein, je te prends ça!
Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été.
Chez Mastavocat, on vous accompagne à chaque étape. Droit familial, criminel, pénal, DPJ, logement, immigration, on est là, vraiment. Parce que chaque dossier est unique, comme chaque personne derrière. Mastavocat à Québec, on est là pour vous, du début à la fin.
Comme spécialiste en exploitation minière, en construction et en foresterie, nous avons le sens de la performance. Comme la performance que nous réalisons ensemble. Équipement SMS est bien plus qu'un distributeur de marques réputées comme Komatsu. Nous mettons notre expertise et nos technologies de pointe à votre service, jour après jour. Car avec le bon partenariat, tout est possible. Équipement SMS, partenaire de vos possibilités. Découvrez les possibilités à équipementsms.com.
Tu penses qu'acheter une auto pas neuve, c'est pas avantageux?